Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
On est ensemble sur Sud Radio pour commenter l'actualité dans le 10h midi avec aujourd'hui Jérôme Dubus. Bonjour, vous êtes membre de La République En Marche. Régis de Castelnau, vous êtes
bonjour,
avocat.
Valérie.
On vous retrouve sur votre blog Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur, un livre de circonstances avec la condamnation de Nicolas Sarkozy, puisque vous vous penchez, vous interrogez et même plus sur cette justice que vous dénoncez parfois comme étant politique, et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve tous les mercredis pour l'édito politique sur Sud Radio dans la matinale. Et Georges Kuzmanovitch, vous êtes président de République Souveraine. Bonjour. Et vous collaborez aussi à Front Populaire ? Non ? Pas
oui,
du tout.
Je révise régulièrement. Oui,
absolument, absolument. Donc, il faut le signaler. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Nicolas Sarkozy hier aux 20h de TF1 ? L'Île-de-France va échapper au reconfinement ou au confinement de week-end. Est-ce que les Français, est-ce que les Parisiens bénéficient d'un traitement de faveur ? Est-ce que le gouvernement joue la montre ? Est-ce qu'on a un petit peu de mal à comprendre la communication du gouvernement avec une conférence de presse annoncée, mais des informations qui sortent la veille ? Enfin, moi, j'avoue que ça me sidère. Et puis, cette question, faut-il... Non, c'est pas la première fois, mais ça continue. Faut-il obliger les soignants à se faire vacciner ? Bon, pas mal de sujets aujourd'hui. Avec vous, on va commencer tout de suite avec le tour de table de ce qui a retenu votre attention. Commençons avec vous, Jérôme Dubus.
Oui, moi, c'est un sujet qui... Vous avez déjà traité, je crois, hier, Valérie,
oui,
sur votre antenne. Mais je voudrais y revenir assez rapidement. C'est un coup de gueule au résultat du sondage effectué par la LICRA,
oui,
et par l'IFOP sur la laïcité et les lycéens. Alors, c'est un sondage qui apporte des confirmations, puisqu'il y avait déjà eu des sondages l'année dernière, d'ailleurs, également par l'IFOP, qui montraient déjà que 75% des moins de 25 ans, alors ce n'était pas seulement des lycéens, mettait la charia au-dessus des valeurs de la République. Là, on a confirmation de ces sondages de 2020, mais ils vont encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a 1000 lycéens de toutes confessions religieuses qui ont été interrogés. Il y en a à peu près 15% qui sont de confession musulmane. Et les chiffres sur les items qui ont été proposés, est-ce qu'il faut revenir sur l'interdiction des signes extérieurs de religieux à l'école, est-ce qu'ils vont revenir sur l'interdiction du port du voile à l'école, est-ce qu'il faut autoriser le port du burkini, que pensez-vous de l'assassinat de Samuel Paty? Bref, il y a à peu près une vingtaine de questions qui vont à peu près tous dans le même sens, hein, sur la défense de la laïcité. Alors les résultats sont stupéfiants. Moi, j'invite tous nos interlocuteurs et tous nos auditeurs à aller voir ce sondage, à regarder de manière précise. Ils sont stupéfiants sur le résultat parce que sur chaque thème, il y a à peu près 50% de ces lycéens qui disent qu'effectivement, il faut abolir les signes extérieurs religieux à l'école, qu'il faut autoriser le port du burkini. Et quand vous regardez sur les lycéens de confession musulmane, là, c'est sur chaque question, plus de 80% de gens qui disent oui sur les résultats. Donc, c'est très inquiétant. Ça confirme, je l'ai dit, les sondages précédents. Là, on va encore plus loin. Et je trouve que ce qui retrace bien ce sondage, la conclusion de ce sondage, c'est que la laïcité, maintenant, apparaît non plus comme un espace de liberté et comme un espace de contrainte, contrainte sur l'expression de la foi religieuse et notamment de la foi religieuse musulmane, et que ça nous prépare des jours extrêmement difficiles, ils le sont déjà, mais extrêmement difficiles, sur cette génération des lycéens, qui ont donc entre 15 et 18 ans, et notamment les lycéens de confession musulmane, qui, c'est une confirmation, pour lesquels la laïcité est une entrave, et pour lesquels le respect des lois de la République est aussi une entrave, et doit passer après la charia. Donc, moi, j'incite les élus, quels qu'ils soient, à regarder ce sondage. D'ailleurs, c'est ce qu'on sent un peu dans la population. On n'a pas besoin de sondage, mais le sondage est une confirmation qui va vraiment dans le sens d'une contestation des lois de la République, d'une contestation des lois de la nation et d'une contestation de la laïcité telle qu'on l'applique en France.
Ah oui, mais c'est effectivement tout le débat qui nous a animés hier. Je pensais que vous vous insurgiez contre ces chiffres. Je n'avais pas compris votre coup de gueule, mais qui va tout à fait dans le sens de ce qu'on disait hier. Et je pense que tout le monde a été assez étonné par ce sondage. Je ne sais pas si quelqu'un veut commenter. Oui,
Valérie,
oui, Régis.
Comment peut-on être étonné? Enfin, voyons, il faut être sérieux, on ne peut pas être étonné par ce sondage, et j'espère que la LICRA est bien la dernière à être étonnée. Je voudrais faire deux observations.
Ouais.
La première observation, c'est que moi, lorsque j'entends quelqu'un qui dit « les lois de ma religion, les lois de mon Dieu sont supérieures à celles de la République », je le reçois comme légitime. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez la foi, je suis radicalement athée, donc je suis très à l'aise. À partir du moment où la personne est dans un espace républicain, elle respecte les lois de la République. Donc, elle peut penser qu'il y a un Dieu qui fait ceci, qu'il y a un livre qui fait cela, etc. Mais ça, c'est son droit. Moi, le nombre de chrétiens que je connais qui sont sur cette base-là, c'est tout à fait légitime. Autre chose, c'est la laïcité. Et là, on a un problème. Alors, il ne faut pas oublier que la laïcité est le fruit de l'histoire. C'était un outil de lutte contre l'emprise de la religion catholique dans l'espace public en France, qui était historique, etc. Donc, ça a été vraiment ça. On a déclaré l'espace public et l'État, c'est la zone de la neutralité. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit extrêmement ferme. Et c'est la finasserie, c'est l'absence de rigueur sur l'application de ces principes et de cette laïcité qui a permis à des lycéens, mais de bonne foi, ils se disent, moi, j'ai plein de copains musulmans, ils veulent pas manger de porc, ils mangent pas de porc, ils veulent se voiler si ça les chante et tout. Attends, faut voir les classes d'âge aussi. Regardez ce qui s'est passé avec Mila. Mila a été l'objet de scandaleuses mises en cause, de menaces de mort, etc., qui n'ont pas été poursuivies 2 ans plus tard. Il n'y a eu aucune espèce de réponse judiciaire véritable. Mais moyennant quoi, on a dû l'exfiltrer de son lycée parce que tous ses condisciples trouvaient que c'était anormal ce qu'elle avait fait. Le problème, il est bien celui-là. Il est bien celui-là. Et le lycée aurait dû être fermé. Tous les élèves auraient dû être dispersés dans d'autres établissements. Terminé.
C'est ce qu'on a dit hier, qu'il n'y a pas grand-chose, on s'indigne et à chaque fois qu'il se passe des choses graves, on ne fait rien. Une auditrice me dit, en lisant l'enquête, on constate qu'en réalité, les lycéens comprennent plutôt bien le principe de laïcité. Ils comprennent que la laïcité, c'est justement de... Alors, j'ai perdu son message, mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte que ce sont des lycéens. J'ai perdu le filet.
Le sondage qui avait été fait sur les moins de 25 ans, c'est-à-dire pas des lycéens, puisqu'ils avaient plus de 18 ans pour certains, confirmait exactement ce sondage.
Absolument.
C'est pas seulement sur des lycéens.
Georges, vous vouliez dire un mot?
Oui, Régis de Castelnau a entièrement raison sur ce coup. Et puis, il faut se rendre compte que les enfants, les jeunes, et nos lycéens en particulier, subissent les finasseries de ce gouvernement. Alors, il y a eu les événements de cette année et une sorte de prise de conscience par le président de la République après l'assassinat de Samuel Paty. Mais il faut rappeler que l'ancien Premier ministre, M. Édouard Philippe, parlait de laïcité apaisée. Et dès qu'on met un adjectif à laïcité, on l'attaque. Et puis c'est bien M. le président de la République qui est allé faire des claquettes dès qu'il a été élu auprès des pasteurs, des évêques, des imams. Bon, dans une logique parfaitement multiculturaliste qui est en fait au fond la sienne, qui est l'influence des États-Unis. Et l'influence des États-Unis est là importante, en particulier pour les jeunes.
Ouais.
Ils subissent ils voient énormément de séries. Le gros des séries sont faites par des anglo-saxons qui ont une représentation du monde qui est la leur, ils ont bien le droit. Et donc nos jeunes sont nourris par ça. Voilà, je pense qu'il faut. Il y a des problèmes, mais il ne faut pas non plus.
Non, mais c'est un marqueur de quelque chose. C'est encore une fois un sondage, une photographie à l'instant T qui nous dit que cette appréciation.
Donc il faut enseigner ce qu'est la laïcité.
Ça a été tout notre débat hier.
C'est un problème de temporalité aussi. Je crois que la République est jeune et les religions ne sont pas dans la même temporalité. Donc c'est beaucoup plus facile de faire de la propagande sur des milliers d'années, de continuer après ça et de dire on est de toute façon dans le temps long, on gagnera à la fin, vous verrez. La République, c'est pas gagné. Mmh. C'est un combat de tous les jours. Et c'est la preuve, ce concept de laïcité, il devrait être simple. Il est extrêmement simple. Mais il faut sans cesse le réexpliquer, sans cesse rappeler que ce n'est pas un concept ennemi des religions, mais au contraire, un concept qui permet justement d'éviter cette guerre annoncée. Donc, c'est vraiment ça le problème, je crois. C'est la façon dont on apprend la République.
Oui, on a une enseignante à la retraite, Danielle, qui nous dit « Je suis prof retraité, nous avons constaté cet état de fait sur le terrain il y a déjà très longtemps, mais je n'ai plus aucun espoir de changement, car l'inculture mène à cela et aucun politique ne veut s'attaquer à ce problème pour des raisons électorales. » Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous pour débattre. Est-ce qu'il faut obliger les soignants à se vacciner ? On en parlera dans un instant avec vous.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons cette actualité bien chargée avec Jérôme Dubus, membre de La République En Marche, Régis de Castelnau, avocat. On vous retrouve sur votre blog Vue du Droit, votre livre Une justice politique pour comprendre comment la justice parfois peut être une justice politique. C'est aux éditions de l'Artilleur. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve sur Sud Radio tous les mercredis matins pour l'édito politique dans la matinale. Et Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. On va évoquer la prestation de Nicolas Sarkozy aux 20h, l'Île-de-France qui va échapper au confinement du week-end, mais pas la région Nord. Et puis, faut-il vacciner les soignants, les obliger à se faire vacciner? Est-ce que vous êtes choqués par ces chiffres qui nous indiquent qu'il y a un grand nombre de soignants? Je crois que c'est 37%, je n'ai pas les chiffres là sous les yeux, 37% en EHPAD qui ne sont pas vaccinés. On en parle avec vous. Dans un instant, on continue notre petit tour de table. Bathier, Alexis, Poulain, c'est un coup de gueule que je partage.
C'est le couple Carlos Ghosn et sa femme qui sortent un livre pour faire ouin-ouin, pour se plaindre. Une saison en enfer, je ne sais pas comment
ça
s'appelle.
Ils racontent leur amour.
Ce qu'il a fait tenir dans les geôles nippones, voilà. Où il faisait froid, il grelottait, il n'a pas pu organiser sa fuite comme il fallait. Enfin, Carlos Ghosn, c'est quand même le mec qui a payé 800 000 euros pour organiser sa fuite, hein, depuis sa résidence surveillée de Tokyo jusqu'au Liban, où il n'y a pas de loi d'extradition. Ouais. Donc là, les Japonais ne peuvent pas le récupérer. Du coup, que font les Japonais? Ils font payer les lampistes. Et là, on a le père et le fils, qui étaient deux anciens... les forces spéciales qui avaient organisé cette fuite, qui sont récupérées par la justice japonaise, qui vont être jugées et qui risquent, eux, 10 ans de prison dans les geôles japonaises, hein, qui a fui de manière assez aisée Carlos Ghosn avec ses millions. Il y en a marre, en fait, de l'entendre qui se débrouille, qui organise sa défense de manière judiciaire. Mais alors, ce côté, j'écris un livre pour me plaindre, ça va, quoi. Franchement, ça...
Non, puis la stratégie de communication, c'est-à-dire en exclusivité sur LCI, puis à 22h30 sur BFM.
Enfin, il est partout, le bouquin est partout, il y a des passages.
Le bouquin a été acheté par Netflix.
C'est possible.
Le scénario.
Oui, mais il était question, effectivement, qu'ils vendent les droits pour une série ou un film.
Régis,
enfin, quand même.
Vous en pensez quoi?
Je vais dire deux choses. Premièrement, effectivement, que quelqu'un qui est dans la seringue de la justice, qui a en charge sa liberté, essaye d'éviter les ennuis, je trouve ça normal, si vous voulez. Hein. J'ai toujours considéré que, comment est-ce qu'il s'appelait, ce terroriste italien était coupable, hein, il a été défendu en France par tout le monde, etc., auteur de Polar. Un jour, il s'est enfui, il est allé au Brésil, et tout le monde a dit « Oh, c'est scandaleux !» Non, il essayait de sauver sa peau. Ça, c'est le premier principe. Donc, Carlos Ghosn essayait de sauver sa peau, je trouve ça logique. En revanche, il ferait bien d'être discret, hein, tout à fait, mais je constate quand même que la presse est gourmande, ce sont les médias, c'est-à-dire que c'est un produit au bout d'un moment, ce que raconte Carlos Ghosn, hein, et tout le monde se précipite dessus. Les responsabilités entre lui, qui n'est pas discret, et la presse qui lui offre des tribunes sont largement partagées.
Vous avez entièrement raison.
C'est-à-dire que hier soir, sur les chaînes de LCI TF1, c'est-à-dire les chaînes privées, on avait le droit entre Nicolas Sarkozy à 20h, Carlos Ghosn et son épouse.
Ah, on a du mal avec votre liaison. Et Patrick Poivre d'Arvor qui était sur TMC, c'était un enchaînement, effectivement, un enchaînement.
C'était les Sopranos, c'est bien.
C'était les Sopranos.
C'était du spectacle. Et n'oubliez pas Madame Balkany qui est chroniqueuse sur C8 avec son bracelet.
Oui.
Ah oui, sur C8.
Oui, mais c'est pas le groupe TF1, mais c'est vrai que
beaucoup... Non, mais bon, quand même, t'allumes la télé, t'as l'impression d'être au parloir, quoi.
Beaucoup sur les...
C'est insupportable, corruption des élites russes.
Voilà, mais c'est vrai qu'hier, beaucoup ont relevé cette concomitance entre Sarkozy, Nicolas Sarkozy sur TF1, Patrick Poivre d'Arvor sur TMC et les époux Ghosn sur LCI. C'était un prétoire, ouais. Absolument. C'était absolument cela. Donc ce coup de gueule est entendu. Georges, c'est un coup de gueule contre la réforme de l'assurance chômage.
Oui, plus généralement contre la stratégie du choc qui est en train d'être mise en place par ce gouvernement et les gouvernements néolibéraux en Europe. C'est sur l'allocation chômage, c'est sur la réforme des retraites. Il faut voir que c'est quand même Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui récemment a dit très clairement que l'emprunt dont pourraient profiter les États comme la France sont conditionnés à des réformes structurelles. C'est un peu ce qui se passait dans les années 90-80 en Afrique avec le FMI qui faisait des prêts à des États, mais il faut des réformes structurelles, c'est-à-dire casser les services publics un peu plus, moins financer les retraites, que c'est tous ces feignants de chômeurs qui sont chômeurs à cause de la crise de la Covid, eh ben, cherchent du travail parce qu'il suffit de traverser la rue. C'est toute cette idéologie qui se met en place, qui a été déjà proposé par Bruno Le Maire plusieurs fois en disant « Ah, on a beaucoup financé, on a beaucoup aidé les Français pendant cette crise », ce qui est vrai. C'est un des États qui a le plus donné d'aide pour supporter la crise. En même temps, ils l'ont provoqué. Enfin, bon, ils ne sont pas non plus très doués. Il a prévenu. Mais tout ça, il faudra le rembourser un jour. Et ça va se faire sur les retraites, sur la sécurité sociale. Et puis, on voit, c'est monsieur Patrick Martin qui est... président délégué du MEDEF qui applaudit, il dit bah oui, bien bravo, bien évidemment, c'est cela qu'il faut faire. Puis ça va pas être trop douloureux pour les chômeurs. C'est quand même ce qu'il a dit à la télévision. Ça va pas être trop douloureux pour les chômeurs. Ah, je crois que voilà, on a le spectacle d'une élite qui coupable, pas coupable, peut passer à la télévision, à des avocats, fait des appels, se défend, écrit des livres, s'évade, et puis d'autres qui prennent la matraque, qu'elle soit fiscale, la matraque réelle ou celle du chômage.
Coup de gueule.
Et ça va revenir souvent, je pense, ce sujet.
Alors, oui, allez-y, Jérôme Dubus.
Juste un petit mot, parce qu'on confond un peu tout. La réforme de l'assurance chômage, elle était programmée, et elle était en discussion bien avant l'affaire de la pandémie.
Oui, mais enfin, il ne vous a pas échappé qu'il y avait une pandémie entre-temps, non ?
Donc elle va tomber à point nommé quand il y aura 2 millions de chômeurs en plus. Ils vont être contents de l'avoir.
Une croissance zéro.
Surtout les cadres qui votent pour vous. Ils vont apprécier considérablement d'avoir 6 mois de chômage.
C'est une erreur, je suis désolé de le dire. C'est une erreur majeure. La réforme de l'assurance chômage, elle a été faite partout, par tous les pays, sauf par la France. Comme la réforme des retraites. Alors, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on continue comme ça, à être le mauvais élève partout de l'Europe, et avec un taux de chômage qui est largement supérieur à la moyenne européenne, ou est-ce qu'on conditionne nos réformes, effectivement, à un certain nombre d'aides de l'Europe.
Il ne vous a pas échappé, encore une fois, qu'on est dans un contexte un petit peu particulier.
C'est la raison pour laquelle la réforme de l'assurance chômage a été suspendue. Il est normal qu'on reprenne aujourd'hui les discussions. C'est tout à fait logique.
Ouais.
Alors moi, je ne m'apprêtais pas à intervenir. Je suis d'accord sur ce point avec Georges, mais le chantage, mon cher Européen, ça commence à bien faire. On est le dernier, les autres l'ont fait, etc. Moi, je sais que j'ai un modèle social qui a été construit par les peuples de ce pays, hein, qu'on est en train de démolir pour faire plaisir à Madame Merkel, pour faire plaisir à Bruxelles et Madame von der Leyen. J'en ai marre, quoi.
Plaisir à personne, c'est des conditions économiques.
Ce discours de dire « il faut qu'on fasse comme les autres parce qu'on est à la traîne », des lois Hartz, hein, tout simplement, faire comme l'Allemagne qui a fait le guichet unique, le job center qui a poussé dans la misère des millions d'Allemands. Ah oui, il faut le faire parce que sinon on n'est pas assez compétitif. C'est vrai. Et le pire de ça, c'est qu'aujourd'hui, en plus de ce discours, remettre de la casse des droits sociaux, la casse de l'État social, on a en parallèle un ministre à Bercy qui dit surtout, je ne vais pas augmenter les impôts sur les entreprises. Alors que les Anglais, eux, vont les augmenter parce qu'ils savent très bien que sinon, c'est le mur de la dette. Non, mais on est en train de créer la faillite. On est en train de créer la faillite de ce pays. Sciemment.
La case de l'État social avec 60% de dépenses publiques, soyons sérieux.
On peut tailler dans la dépense. Déjà, pourquoi on paye autant les cabinets de conseil pour faire un travail aussi pourri? Des millions, 11 millions pour les cabinets de conseil. Pourquoi on a des enveloppes pour les ministres, 150 000 euros de frais de remplacement? Alors là, je peux vous dire, on peut tailler dans le gras. Les députés qui ont augmenté encore leurs frais. Eux, ils augmentent. Hein. Il n'y a aucun problème. Non, les personnes au Conseil constitutionnel...
Mais c'est faux, juste. C'est faux. Ce 60%, Monsieur Dubus, est faux. Vous le savez parfaitement. Vous prenez des chiffres, vous comparez les mauvais chiffres. Si on comparait réellement le poids de la dépense publique, vous verrez très bien qu'elle est parfaitement similaire entre la France et l'Allemagne. Juste vous comparez des patates avec des chaussettes, ce qu'on apprend en sixième en mathématiques, ne pas faire. Et c'est inadmissible parce que ça vous permet de pousser un agenda néolibéral qui ne fait qu'appauvrir les Français. Je pense de toute façon que vous en paierez le prix.
Et qui est devenu anachronique compte tenu de la crise sanitaire.
Ouais. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un petit instant. Vous aurez votre coup de gueule, Régis de Castelnau, et puis on vous tiendra au courant de la vaccination de notre auditeur, Xavier, où le compte, le Doctolib n'était pas à jour, et il n'est toujours pas à jour. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Alors, je suis assaillie de messages qui disent corporatisme. Valérie ne parle pas des journalistes et des intervenants santé pris en faute du non-respect du couvre-feu. Peut-être en fait-elle autant sur des journalistes de BFM. Non, je n'en fais pas autant. J'aurais trop peur de me faire choper. Et j'aurais trop peur d'attraper le virus. Vous voyez que j'ai un masque, donc vous imaginez bien que je ne vais pas aller m'amuser à aller dans des restaurants. Donc, effectivement, il y a cette info qui est sortie dans le Canard enchaîné. Hier, Marc-Olivier Fogiel l'a démenti. Le Canard enchaîné, en principe, ne sort pas d'informations.
Il y avait une histoire avec les magistrats aussi qui avaient été pris dans un resto clandestin, qu'on démentit également. Ouais. Ça commence à faire beaucoup de restos clandestins.
Il faudrait
faire tourner les adresses, parce que c'est vrai qu'on...
Et là, c'est un restaurant, le restaurant... Oui, alors Régis de Castelnau.
Les trois présidents, restaurant du groupe Altice.
C'est vrai qu'il y a des restaurants clandestins.
Bien sûr.
Moi, j'ai pas participé, je suis assez gros comme ça.
Oui. Hein,
en revanche, je connais des gens qui les fréquentent.
Absolument.
C'est un espèce de système transgressif, etc. Et je confirme qu'on y voit des journalistes et des magistrats.
Et des politiques. Et des politiques.
Et des avocats aussi.
Et des policiers.
Oui. Pas d'ouvriers, en revanche. Hein.
Non, il n'y en a plus.
Non,
mais c'est... Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de corporatif. J'attends effectivement de voir. Il y a cette info qui est sortie dans le Canard enchaîné. Marc-Olivier Fogiel l'a fermement démenti. Oui. Donc on va voir. Je pense, en général, le Canard, ils n'aiment pas trop qu'on les prenne en défaut ou en tout cas qu'on leur dise que ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y aura peut-être... Donc suite, la semaine prochaine, on vous tiendra au courant. Si vous avez les adresses de ces restaurants, ça m'intéresse. Le problème, c'est qu'ils ferment les uns après les autres, ce dont on entend parler ici ou là. Georges, vous avez vous-même été dans un restaurant clandestin ?
Non, ce serait pas sérieux.
Ce serait pas sérieux. Et Jérôme, Jérôme Dubus, vous avez eu vent de ces pratiques pour le, a priori, enfin pas que parisiennes, mais en tout cas parisiennes.
Oui, ça existe. Je ne sais pas s'il faut y introduire la lutte des classes comme l'a fait Régis. Mais lui, c'est un spécialiste de la lutte des classes partout, donc c'est très bien.
Je me suis mis en cause, Valérie.
Il y a quelque chose qui est assez choquant. C'est pas le... Alors ça, c'est évidemment, il faut y mettre un terme, évidemment, c'est restaurant clandestin, mais je ne sais pas si vous connaissez Rungis.
Oui.
Bon, à Rungis, vous avez tout un tas de restaurants qui sont restés ouverts sous prétexte que ce sont des restaurants inter-entreprises.
Oui.
Alors effectivement, il y a tout un tas de commerçants qui sont autour de Rungis, qui sont des grossistes, qui ont leurs restaurants et qui sont des restaurants qui restent ouverts de manière tout à fait légale.
Mmh.
C'est stupéfiant. Moi, je vous invite à y aller.
Enfin, tout le monde ne peut pas rentrer à Rungis, mais effectivement, il y a cette...
Oui, mais alors c'est stupéfiant parce que ce sont des restaurants qui tournent à plein, qui sont pleins midi, alors surtout midi évidemment, pas le soir, mais qui tournent depuis un an, enfin... Pandémie ou pas pandémie.
Oui, je voudrais répondre à mes auditeurs qui croient qu'on est dans un grand complot, qu'on se soutient, etc. Non. Elle ne va jamais dire que c'est un restaurant qui appartient à Patrick Drahi.
Si, on l'a dit.
Donc, voilà, on n'a pas président. On n'a rien à cacher, on ne soutient personne,
on n'est payé par personne,
on n'a pas vu la carte. Donc, effectivement, il s'agit d'un restaurant qui appartiendrait, enfin, c'est une information, moi, je n'en ai pas la confirmation, à Patrick Drahi, un restaurant qui est situé pas très loin de BFM, d'une partie de l'armée et puis de l'hôpital Georges Pompidou, ce qui explique pourquoi il y avait certains soignants. Donc voilà, non,
Patrick,
pas
Oui. Mais si cette crise continue comme ça...
Je voudrais affiner la lutte des classes.
Oui, allez-y.
Le problème avec les restaurants clandestins, ça me fait sourire. Hein, on a toute prohibition génère ce genre de choses, etc. Et effectivement... moi, je ne veux pas la mort du pêcheur, surtout que la fermeture des restaurants sur les conséquences positives sur le Covid, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je ne sais pas, moi, je reste dubitatif. En revanche, là où se pose un problème, c'est quand les gens qui sont chargés de faire respecter la loi, que nous payons pour ça, qui ont prêté serment, hein, c'est-à-dire les magistrats et les policiers, la transgressent. Là, j'ai un gros problème, ça c'est grave.
Oui, absolument.
Oh, donc, on est bien d'accord.
Ceci étant dit, donc voilà, je ne vous cache rien, je n'occulte rien. Voilà, on attend. Moi, je voulais voir effectivement ce que le canard enchaîné va répondre. Marc-Olivier Fogel dit qu'aucun journaliste n'a été arrêté et mis en garde à vue. Donc on verra la semaine prochaine. Alors, rapidement, Régis, un coup de gueule.
Oui, ben, rapide, voilà, ça y est. Hein, on vous censure. Juste, bon, je suis amateur de sport, j'adore plus le rugby, mais surtout le foot aussi. Et donc, et quand je constate, je veux dire, les contorsions pour cette Coupe du Monde du Qatar, quand je constate, ça nous renvoie au premier sujet, hein, le rôle du Qatar, par exemple, dans la diffusion de l'islam salafiste, qui est un vrai problème, hein, qui ont financé dans le monde entier toutes ces dérives qu'on connaissait pas auparavant. Et là, on leur a donné la Coupe du Monde de football et on apprend... Je pense que les chiffres ne sont pas éloignés de la réalité, qu'il y aurait eu 6500 morts d'accidents du travail pour la construction des équipements où un certain nombre de personnes vont aller parader dans la prochaine Coupe du Monde. Et ça me choque, je trouve ça terrible. Et surtout, silence total. Ouais. Silence total des belles âmes qui, d'habitude, sont toujours les premières à être très compassionnelles. Là, on ne les entend pas.
J'ai entendu une réponse du Qatar qui dit que c'est dans la moyenne des morts sur un chantier comme
celui-là. C'est ignoble. Ce qui s'est passé, c'est le sang qui a construit ces stades qui n'ont rien à faire là, d'ailleurs, parce qu'il fait trop chaud pour y jouer. Et voilà que derrière, effectivement, on va parler du scandale des Ouïghours, etc., qui fait la Coupe de l'Obs, mais le fait que le Qatar s'achète une diplomatie avec le football, ça, personne ne dit rien. Ça n'achète pas seulement une diplomatie, ça achète des hommes politiques aussi. Très facile.
Très
financement de campagne, en cadeau, en bakchiche. Regardez le nombre de gens qui vont faire des conférences là-bas. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, au groupe Accor, qui a été l'homme des Qataris pendant longtemps. Donc ça suffit à un moment. C'est ignoble, il faut le dire. C'est scandaleux et cette Coupe du Monde, c'est un scandale.
Oui, Georges.
Oui. Ah oui, mais c'est Coupe du Monde,
le contraire.
Entièrement d'accord. Et puis c'est de l'esclavage.
Mais enfin, vous avez
quand
raison,
on sait comment, d'où viennent, combien ils sont payés à la base, même s'ils ne mourraient pas, comment ils sont logés dans des conditions ignobles qui relèvent littéralement de l'esclavage. Là, les belles âmes ne se mobilisent pas plus que les écologistes, parce que bon, on fait une Coupe du Monde au Qatar. Il va falloir des souffleries géantes qui envoient des milliers de litres d'eau pour. Parce que si, je ne sais pas si vous avez essayé de courir dans un désert. Moi, j'ai testé au Sahel. Vous le faites 2 minutes et puis vous êtes mort. Mais donc là, il faut tenir une
absolument. 30. Ouais, c'est non, c'est absurde. Pas possible. 2700 morts, non, 6790 morts en 10 ans. Peine de mort pour les homosexuels. Voilà.
Enfin, et sur ce que disait juste Alexis sur l'émission là-bas, si j'y suis. Qui a été arrêté il y a quelques années. Il y a tout un tas de raisons, on en pense qu'on veut, mais bon, c'était une source d'informations intéressante. Ça a été beaucoup fait quand ils ont fait un double reportage sur la réception à l'ambassade du Qatar et les journalistes se promenaient avec leur petit micro. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde.
On pourrait faire une émission complète sur les conditions d'attribution des grandes
compétitions,
sportives mondiales.
On peut décaler le débat.
Notamment les Jeux Olympiques et tout ce qui concerne les sports collectifs, etc. C'est proprement hallucinant depuis des années. Championnat de la Coupe du Monde en Russie, c'était quand même gratiné aussi. Ouais. On n'a pas le détail des morts. Pour les constructions des chantiers. Ça serait intéressant d'avoir.
Il y en avait beaucoup moins. Mais ce serait intéressant de décaler le débat de l'islamo-gauchisme à l'islamo-affairisme, l'islamo-capitalisme, et de voir comment, finalement, ces émirs subventionnent nos politiques. Et à tel point, c'est pas seulement en France, hein, il faut voir Joe Biden qui dit « Oui, je remets de la morale en politique. » Alors, Mohamed Bin Salman a quand même demandé à ce qu'on découpe un opposant, un journaliste, Khashoggi, et il a dit « Bon, qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait ? Ouf, on va dire que c'est pas gentil de faire ça.
Ouais. Non,
c'est
mais
ça, la morale en politique.
C'est, oui, ils font rien. C'est-à-dire
non,
que,
rien. Voilà. Non, ils ont dit non, allez, on va décaler, on va voir alors, comment on fait une diplomatie.
On a attribué les Jeux Olympiques à la Chine, qu'est-ce que vous voulez ?
Le feuilleton continue pour le feuilleton de la vaccination. Donc, je suis un auditeur, Xavier, qui me tient au courant donc, de ses rendez-vous impossibles pour se faire vacciner. Et effectivement, le site Doctolib donc, n'est toujours pas mis à jour, alors qu'il est dans la tranche d'âge qui pourrait se faire vacciner. Moi, j'ai fait un test hier, je suis allée voir sur Doctolib. Ça m'a indiqué un centre où il y avait des rendez-vous, donc j'ai cliqué 14 heures pour voir. Et puis, quand on clique, bah, on vous dit non, vous ne pouvez pas vous faire vacciner parce qu'il y a trop de monde et qu'il n'y a plus de vaccins. Donc, c'est kafkaïen.
Est-ce qu'on peut parler du fiasco de la Startup Nation ? Parce que c'est vraiment ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fois, ils payent des millions les cabinets de conseil comme McKinsey, Bain, etc. Et de l'autre côté, ils font confiance à des sites comme Doctolib pour prendre les rendez-vous. D'autres pays ont utilisé l'armée. Parce que l'armée, c'est les champions de la logistique. En France, on ne l'a pas fait. Mmh. Pourquoi ?
Poser la question. Oui,
je pose la question. Pourquoi en France, on a mis l'armée de côté ?
Moi, c'est tout à fait exact. Non, la gestion de la pandémie, première phase, deuxième phase, hein, il faudra bien historiquement en faire l'examen. Ça a été lamentable. Non, je me demandais, parce qu'il y a eu, y compris l'information, la question des âges, c'est à partir de quand ? Donc maintenant qu'on est au-delà des facteurs de comorbidité, qu'on est vaccinable. C'est quoi ? C'est 75, 99 ?
Au-delà de 50 ans, vous pouvez.
50 ans.
Au-delà de 50 ans, avec des facteurs de comorbidité, vous pouvez être vacciné.
Oui. Et sans facteurs de comorbidité.
Vous attendez, mais il y a des personnes âgées. Je donnais l'exemple de cette dame de 92 ans qui a eu un rendez-vous le 10 ou le 12 mai.
Oui, mais là, maintenant, si le vaccin AstraZeneca est autorisé pour les plus de 65 ans, ce qui semble être le cas, les médecins généralistes vont être en possession à partir de la semaine prochaine d'un certain nombre de doses d'AstraZeneca, ils vont pouvoir vacciner.
Oui, mais enfin, là, pour l'instant, il y a des doses.
Non, c'est à partir de la semaine prochaine.
Oui, mais là, il y a des doses. Le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a du vaccin AstraZeneca qui est là, qui est disponible, mais qui n'est pas acheminé chez les médecins. Je voyais le témoignage de Jean-Paul Hamon ce matin, qui disait « Moi, je vais être obligé d'annuler les 40 rendez-vous que j'ai la semaine prochaine parce que mon pharmacien me dit qu'il n'a pas les moyens aujourd'hui, qu'il n'a pas les vaccins, mais ils sont là. »
Il y a aussi l'inverse. Il y a aussi des doses d'AstraZeneca qui ne sont pas utilisées.
Donc ça veut bien dire que c'est le bordel, pardonnez-moi.
Ça rappelle l'affaire des masques. Il y avait des masques, mais on ne savait pas comment les distribuer.
Ils ont accepté de vacciner alors qu'ils sont plus de 50 000.
Et on va parler des soignants. Sacha nous dit les soignants et la vaccination, nous sommes assez sceptiques, c'est vrai, non pas contre la vaccination, mais nous demandons un peu de recul. Nous avons vu qui étaient ces lits Covid, qui étaient en réa, comment la pandémie était gérée. Alors c'est assez long son mail, je suis d'accord avec Sacha, sauf que quand on dit 98%, il y a des Covid longs. Je veux dire, autour de moi, j'ai des gens qui ont des Covid longs. Je n'aimerais pas que mes proches ou moi ayons un Covid long, des gens qui sont épuisés, qui sont... ça représente 30% quand même des Covid. Donc on ne parle pas que des morts, etc., etc. On va y revenir dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Jérôme Dubus, Régis de Castelnau, Alexis Poulain et Georges Kuzmanovitch. Donc, la vaccination obligatoire pour les soignants, c'est une question qui s'est posée. Ils sont vaccinés contre l'hépatite B. Plusieurs médecins appellent aujourd'hui à ouvrir un débat sur cette vaccination. J'ai retrouvé je vais vous lire quand même ce que dit Sacha. C'était assez long, son message, mais elle dit je ne sais pas, il faudrait que vous me disiez, Sacha, parce que c'est un prénom mixte, si c'est garçon ou fille. Nous avons vu qui était dans les lits Covid, qui était en réa, comment la pandémie a été gérée, comment elle s'est répandue, pas par les familles, puisque les familles n'avaient pas accès aux hôpitaux, mais plutôt par un turnover des soignants infirmières, aides-soignants, par les médecins intérimaires, semaine par semaine, avait-il un test PCR de moins de 72 heures. Il n'avait même pas de tenue professionnelle pour rentrer dans les chambres, ou en tout cas, il ne la portait pas, par des chambres occupées par un patient Covid et un patient non Covid, par le self ouvert à tous, par la fermeture continue des lits d'hôpitaux, etc., etc., etc. Donc, certainement facile d'accabler les soignants, parce qu'il y a tout un facteur. Mais c'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup d'échos de soignants, d'infirmières, d'infirmiers, qui ne veulent pas se faire vacciner. Et vu de l'extérieur, on a un petit peu de mal à comprendre, Alexis Poulain.
Mais c'est aujourd'hui la première maladie nosocomiale, vous savez, ces maladies qu'on attrape à l'hôpital, c'est le Covid. Donc, il y a un vrai problème de santé publique qui n'est pas pris en compte, encore une fois. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'un cabinet de conseil est sur le coup. Toujours est-il que c'est une réalité. Ensuite, les soignants qui refusent de se faire soigner, on leur a dit aussi, attention, le AstraZeneca, il ne marche peut-être pas super, donc attendez. Donc, ils attendent d'être sûrs que, un, le vaccin fonctionne, qu'il n'y a pas non plus d'effet indésirable, parce que le problème de l'AstraZeneca, c'est que sur certains lots, on a vu des réactions.
Je ne sais pas si c'est des lots ou des individus. Ce n'est pas le vaccin lui-même.
Enfin, c'était quand même de nombreux individus qui avaient le Covid. Hein, suite
nombreux,
au vaccin,
nombreux, il y a eu de la communication autour de ces individus.
Bah, on a arrêté les campagnes de vaccination à cause de ça, dans les lieux où ça avait commencé. Donc ça fait quand même beaucoup de couacs qui font que je comprends la réticence des soignants à accepter tel ou tel produit, compte tenu qu'on n'a pas le recul suffisant sur la fois l'efficacité et le problème bénéfice et risque. Voilà.
Ce que j'entends à l'instant est totalement ahurissant. Mmh. Pourquoi ? D'abord parce que les soignants anglais qui sont vaccinés en masse utilisent AstraZeneca. Il n'y a eu aucun cas, quasiment pas de cas, sur le nombre de millions de soignants anglais et au-delà, utilisant AstraZeneca, qui ont eu des effets indésirables, premièrement. Donc dire qu'on a mis le doute sur AstraZeneca vis-à-vis des soignants, c'est totalement faux. Et justement, AstraZeneca va être poursuivi au-delà de la tranche de 65 ans. Enfin, deuxièmement, il y a une responsabilité individuelle et morale de la part de ces soignants. On nous dit qu'il y a 20% d'irréductibles qui ne voudraient pas se faire vacciner chez les soignants. Je ne sais pas si c'est 20 ou 25%, mais ça veut dire que, et moi je suis tout à fait d'accord là-dessus, il faut rendre le vaccin, comme le vaccin de l'hépatite B, comme le vaccin pour la polio. Le DDT polio est également obligatoire pour les soignants, il faut le rendre obligatoire pour les soignants. Il est inadmissible aujourd'hui qu'on ait, par exemple dans les EHPAD, quasiment 60 ou 70% des soignants qui ne soient pas vaccinés. Ouais. Quelle est la raison ? Il n'y a aucune raison objective, franchement, d'autant que sur les EHPAD, on a le vaccin qui n'est pas AstraZeneca, on a le vaccin ARN. Deux vaccins ARN dans les EHPAD. Donc, si on a une prévention vis-à-vis de AstraZeneca dans les EHPAD, c'est absolument pas vrai. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ait ces chiffres aussi faibles de vaccination chez les soignants. On a des chiffres à l'étranger qui sont de 80-90% déjà de vaccination chez les soignants.
Oui, maintenant, mais il faut savoir
absolument
que
c'est quand même incompréhensible.
Non, mais c'est quand même...
Si, c'est très compréhensible.
Alors, Georges,
c'est Manoel parfaitement compréhensible, M. Dubus. C'est la désorganisation complète au niveau de l'État. Le fait de choisir qu'une stratégie vaccinale pourrait être faite, comme l'a dit Alexis de Poulain, par un cabinet de conseil qui n'a évidemment aucune idée sur la stratégie vaccinale, encore moins dans les moyens de faire de la logistique.
Non, mais là,
on avait l'armée. C'est de le faire un conseil de défense, alors que c'est une question qui a à voir avec la santé publique et que donc elle devrait être débattue. Et c'est de ne pas prendre les responsabilités. Alors, bien évidemment, là où vous avez raison, dans les pays où les choses sont organisées, alors, par exemple, comme vous l'avez dit en Grande-Bretagne, dans ce pays qui est plongé dans le chaos le plus total depuis le Brexit, comme on l'avait promis. 30% de la population est vaccinée, contre moins de 5% en France. Ça y est, chiffres...
Pas 30%, 20%.
Mais non, ils sont à 30%, monsieur. Et puis en plus, monsieur, ils ont, eux, acheté 60 millions de vaccins à un cabinet, à un laboratoire français de Loire-Atlantique à Saint-Herblain, parce que ils n'ont plus cette superstructure bureaucratique.
Donc vous trouvez bien que les soignants français ne fassent pas vacciner. Bravo.
Oui, les Anglais ont acheté un vaccin et ils vaccineront encore plus vite.
Pourquoi vous trouvez ça bien que les soignants ne soient pas vaccinés ?
Mais je n'ai pas dit que ce n'est pas
bien.
J'ai dit le contraire. Et en Grande-Bretagne, comme ils sont organisés, comme en Israël, comme en Corée, laissez-moi finir.
Ils ont
d'abord vacciné les gens qui sont potentiellement vecteurs, donc d'abord les soignants, les policiers, les agents de la fonction publique, donc ceux qui sont en contact de la population, et bien évidemment, ça a un effet.
Mais attendez,
sauf qu'ils sont organisés. Et vous posiez la question, pourquoi ce n'est pas fait en France ?
Parlez pas en même temps, Jérôme, on n'entend pas. Oui.
Vous demandiez pourquoi ce n'est pas fait en France ? Eh bien, ce n'est pas fait en France, parce que la politique vaccinale a été faite de travers par un cabinet qui s'appelle McKinsey. Vous savez à qui demander pourquoi c'est mal fait ?
Alors,
les deux, je voudrais rajouter une chose sur
alors,
le.
Alors, répondez, Jérôme Dubus.
Oui, les doses sont là dans les hôpitaux, elles ne sont pas utilisées. Arrêtez de dire que c'est la désorganisation. Les doses sont là dans les hôpitaux. Mmh. Les gens ne les utilisent pas. Valérie. Il y a une responsabilité individuelle des soignants qui est majeure.
C'est le complot des médecins contre le gouvernement.
Responsabilité individuelle de l'épidémiologiste en chef qui est à l'Élysée, qui a annoncé en janvier, justement, qui disait à la presse étrangère que le vaccin AstraZeneca était quasiment inefficace pour les personnes âgées et que les résultats préliminaires pour les personnes entre 60 et 65 ans n'étaient pas très encourageants. Ça, c'est Emmanuel Macron qui le disait, sans aucune donnée scientifique à l'époque. Depuis, on rame pour dire non, mais attendez, c'est pas vrai. Bon, ça, c'est le mec dont on dit qu'il lit la presse en anglais, qu'il est génial, qu'il a un diplôme d'épidémiologie dans 2 mois. Enfin, il l'a déjà.
Oui, voilà, on
faut arrêter. Non, mais faut voir le degré de nullité dans la gestion de cette crise depuis mars 2021. Alors, ça fait un an qu'on est englué dans la nullité quotidienne, dans l'improvisation quotidienne. Il faudrait accepter et dire
tous
bravo,
en même temps.
Félicitations. Non,
tout le monde écoute M. Macron. C'est
non, c'est les médecins sont coupables.
Bah oui, c'est la photo médecin, puis c'est la photo français. Puis bah oui, c'est vrai.
Non, mais là où Jérôme Dubus a raison, c'est qu'il y a des vaccins et que ce sont les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner.
Mais pas tous. Vous avez des gens qui veulent se faire vacciner, comme vous dites, qui n'ont pas de rendez-vous.
Pas chez les soignants. Pas chez les soignants.
Les soignants, peut-être. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont des données qu'on n'a pas sur les vaccins.
Non, mais
ils
ont suivi. Pourquoi ils veulent pas? Mais là où Alexis a raison, c'est
Top. Pas tous en même temps.
Le président, on met le doute.
Oui. Je ne veux pas passer mon tour de taper sur Jérôme. Bon. Je veux dire que... Pourquoi ils sont tous nuls, etc. Attendez, le déficit de confiance, extrêmement important, il est dû à quoi? On a un pouvoir minoritaire. On a un pouvoir qui nous a infligé Madame Buzyn, Monsieur Salomon, qui j'espère va passer devant le tourniquet pénal pour avoir caviardé des rapports. On nous a dit, on a eu Sibeth Ndiaye, on a eu toutes les errances. Et aujourd'hui, il faudrait que l'ensemble de la population ait confiance. Je pense que sur cette question des vaccins, elle a tort de pas avoir confiance. Mais c'est un peu facile de dire c'est de la faute de la piétaille, alors que les chefs sont nuls à chier. Excusez-moi, Valérie.
Qui a dit que c'était la faute de la piétaille, personne.
Non, non, mais...
Enfin, les soignants, ça pose un problème, reconnaissez-le, ça n'a rien à voir.
Mais pourquoi ils en sont là? C'est qu'il y a zéro confiance.
C'est qu'il y a zéro confiance et qu'il y a eu une communication merdique, pour reprendre l'expression.
Et sur l'épidémiologiste, c'est l'entourage qui dit comment qu'il n'est pas trop merveilleux, il sera bientôt. C'est pas Alexis qui l'invente, cette expression et cette... cette histoire. Non, ce sont... Ce pouvoir ne gouverne pas, il communique.
Allez, on a des auditeurs en ligne. On a Diane de Perpignan qui voulait témoigner. Bonjour Diane.
Bonjour tout le monde. Quelle discussion.
Oui, c'est animé aujourd'hui.
Animé, oui.
Voilà.
Oui, moi je téléphone justement pour les vaccins. Je sors de chez le docteur ce matin. Donc directement, j'étais pour mon médecin ce matin parce que j'avais quelque chose à lui demander. Et on a parlé des vaccins. Elle a 50 et quelques années, donc elle n'est pas toute jeune. Même elle n'est pas vaccinée, tout simplement parce que dans les rubriques médicales, c'est un flou total. Ils n'arrivent pas à savoir réellement la totalité des choses réelles. Et de deux, vous disiez que les vaccins étaient pour les maintenant accès à tout le monde. Ce n'est pas vrai. C'est toujours la même chose parce que j'ai dit, et moi alors donc je voudrais bien m'inscrire, mais pas pour celui-là, parce que celui-là, avec tout ce qu'on a entendu, je voudrais celui du mois d'avril qui va arriver, le John. Elle me dit, mais pour le moment, les vaccins ne sont pas accès à tout le monde. C'est des pathologies bien spéciales, encore maintenant.
Oui, c'est vrai, pour les plus de 50 ans.
Même maintenant et même la semaine prochaine. Et il y a aussi, qu'il faut dire, les généralistes, on leur met sur le dos, sur le dos pour faire des vaccins. Et les vaccins, actuellement, les généralistes, ils ont leur boulot, comme vous êtes à l'antenne ce matin, eux, ils ont leur boulot, ils ont leurs patients à voir. Et ils doivent trouver du temps pour vacciner en plus. Donc vous comprenez bien qu'ils sont dans un foutoir pas possible pour trouver des horaires pour vacciner les gens. Donc voilà, il faut qu'ils prennent sur leur temps à eux, il faut qu'ils prennent sur leur temps, et en même temps qu'ils décalent des rendez-vous qu'ils ont pour pouvoir arriver à faire des vaccins. Donc, il faudra arriver à synchroniser tout ça, alors que de mettre tout le monde dans la panade. Vous m'excuserez. Tout ça pour un gouvernement qui rame depuis le début.
Merci Diane. Un médecin me signale qu'en fin de journée, il reste des doses parfois, et que les médecins, donc ils appellent les soignants de l'hôpital pour les vacciner, et il me dit on essuie plein de refus, même pour le Pfizer. Et il me dit aussi que ce qu'évoquait Jérôme Dubus, c'est-à-dire que la contamination nosocomiale, le Covid nosocomial était un drame absolu, qu'il a été amené à refuser des malades qui avaient contracté le virus de manière nosocomiale parce que trop vieux, trop grave, des vieux qui sont rentrés pour autre chose, chute à la maison, et c'est qui sont morts du Covid nosocomial. C'est le cas aussi, un autre médecin neurologue m'a dit que ces patients qui étaient rentrés pour des AVC sont contaminés par le Covid.
C'est le cas. Et vous avez à la fois ça, donc les gens qui rentrent pour quelque chose à l'hôpital, qui ressortent avec le Covid, certains en meurent. Et puis vous avez tous ceux qui ne vont pas à l'hôpital et les non diagnostiqués. Et vous avez l'épidémie des cancers non traités qui va arriver après cette crise du Covid.
Justement, il faut pousser les soignants à se faire vacciner.
Jérôme Dubus, il y a quand même eu un problème de com sur le AstraZeneca. Et vous entendez qu'un médecin dit à sa patiente « Oh là là, on n'en sait pas trop ». Moi, j'ai des gens autour de moi qui me disent « Oh là là, on ne va pas se faire vacciner avec avec le Pfizer parce qu'il y a un composant chinois et qu'on va attraper la sclérose en plaques dans 3 ans ». Il y a un paquet d'informations comme ça qui circulent, et c'est vrai que c'est très, très, très compliqué.
Il y a une expérience grandeur nature sur des millions et des millions de vaccinés. Donnez-moi les cas où ça a dérapé. Donnez-les-moi, précisément.
Oui, regardez l'exemple d'Israël. Regardez l'exemple d'Israël où il y a eu du Pfizer principalement. Mais c'est vrai que non, il n'y a pas de flou total. C'est ce que dit une auditrice, Nathalie. Elle me dit non, il n'y a pas de flou total. Après, c'est vraiment un problème d'appréciation et de compréhension.
Et de responsabilité individuelle.
Et de responsabilité, absolument. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On parlait de la vaccination obligatoire pour les soignants. On en parle et on a Benoît en ligne avec nous. Bonjour Benoît.
Bonjour à vous. Merci.
Bonjour.
Merci de me donner la parole. Bonjour.
Oui.
J'écoutais le débat avant. D'abord, les maladies nosocomiales ne datent pas d'aujourd'hui. Il y en a toujours eu et des dizaines de milliers de morts tous les ans.
Mais sauf que là, c'est visiblement une épidémie à l'intérieur de l'hôpital. C'est ça qui change.
Oui, avant il y avait des morts, et puis là aujourd'hui on y met une main dessus. Et bon, ça, il y en a toujours eu. L'État, c'est vrai, un gros défaut, c'est qu'ils ont continué à diminuer les lits dans les hôpitaux. Alors que justement, on aurait dû augmenter le potentiel d'hospitalisation. J'écoutais votre intervenant qui disait qu'il fallait qu'on lui ramène des exemples de problèmes sur le vaccin, dire qu'il y a zéro problème sur le vaccin, c'est impossible. Il faudra être fou pour dire un truc pareil. Il y a des problèmes, ça peut-être à la marge, mais il y a des problèmes. Et il faudrait savoir de quoi on parle. Là, aujourd'hui, on en est, au 3 mars, on a été à 87 500 morts du Covid. Sur une population de 67 millions d'habitants, ça fait 0,0013% de morts sur les Français, 0,0013%. Quand vous avez que votre calculatrice qui commence à afficher un résultat d'un pourcentage de morts avec une 10 puissance moins 3, moins 4, il faut vraiment commencer à se poser des questions. C'est-à-dire, mais mince, quand même, est-ce qu'on ne fait pas une... Je ne dis pas que ça n'existe pas, et puis je ne suis pas contre le vaccin, bien au contraire, je suis vacciné. Mais là, dire que les soignants sont inconscients de ne pas se faire vacciner, c'est comme dire à son plombier, vous refusez de mettre son robinet parce que vous dites qu'il n'est pas bon, c'est n'importe quoi. Mais peut-être qu'il est plus à même et plus apte à juger les effets qu'ils ont vus sur leur patient et qu'ils disent non, moi je n'en veux pas, je ne suis pas prêt à me vacciner avec un truc dont on n'a aucun recul encore. Et contre une maladie où a priori il commence à y avoir des traitements qui émergent, alors se faire inoculer un vaccin avec un produit qu'on ne connaît pas face à une maladie.
Mais vous connaissez le produit qu'il y a dans le vaccin contre la grippe ?
Non, moi, communément.
On ne sait pas plus ce qu'il y a dans les autres vaccins, donc on est tous devenus...
Ah, mais je ne prends pas la grippe d'ailleurs.
Oui. Mais là, vous avez pris celui-là quand même.
Non, je ne l'ai pas pris.
Vous avez dit je suis vacciné, c'est pour ça, j'ai compris que vous aviez dit...
Non, je ne suis pas vacciné. Absolument pas. Non, celui-là, il n'y a vraiment pas de recul. Les Français ne sont pas fous, ils voient bien qu'il y a un problème quand même de recul.
Mais quand vous voyez qu'Israël est en train de reprendre une vie normale avec une population majoritairement vaccinée...
Pourquoi on ne reprendrait pas une vie normale quand on voit le taux de mortalité ?
Parce qu'il n'y a pas que la mortalité. Alors, je me suis fait insulter pour avoir dit ça. Il n'y a pas que la mortalité. Il y a pas mal de gens. On va quand même approcher...
Il Oui, il y a peut-être aussi un traitement tardif avec un anticoagulant qui aurait pu être efficace avant.
Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Donc, je sais que je vais m'en prendre une.
Il y a des traitements expérimentaux.
Des traitements expérimentaux, mais pas validés. Pas validés.
Mais quand même. Enfin,
on peut pas dire.
Olivier Véran est prêt à dire qu'on va prendre le bamvilimivab, le truc imprononçable du laboratoire Ilili, alors que les études de ce labo sont scandaleuses pour dire que ça fonctionne et qu'il y a beaucoup de critiques. Un traitement qui coûte cher, 1 000 à 2 000 euros. La dose. Et on fait ça pourquoi ? Parce que les Allemands en ont commandé. Alors, faisons pareil.
Et une précision d'un auditeur, 0,1% des morts, ça fait 200, quand il y a 250 000 malades par semaine, ça va faire beaucoup à la fin de morts quand même. On va inexorablement approcher des 100 000 morts quand même. Donc, c'est pas anodin non plus. C'est effectivement pas totalement anodin. Je voudrais qu'on parle du... Merci Benoît de votre appel. Je voudrais qu'on parle du reconfinement ou du non-reconfinement. Donc, l'Île-de-France... Alors, pareil, il y a une conférence de presse et déjà, hier soir, toutes les infos pratiquement, enfin, peut-être pas toutes, étaient sorties. Jean Castex s'exprime.
Est-ce que vous voulez que je vous imite Jean Castex ce soir ?
Alors, allez-y.
Non, pas d'autophobie, s'il vous plaît.
On peut le faire. Non, mais... On n'a plus le droit de se moquer des accents. Mais je ne me moque pas des accents, c'est Jean Castex. Il va dire quoi encore ? Qu'il a regardé avec sérieux, avec des slides derrière, les diapositives PowerPoint. La semaine dernière, elles étaient foireuses. Le drapeau français était à l'envers, c'était des chiffres bidonnés. Ouais. Tout ça fait par McKinsey, encore une fois, payé très cher. Hein, pour même ça, ils ne le font pas bien. Et ce soir, ça va être la même chose avec Olivier Véran.
Non, mais c'est quoi cet acharnement systématique ?
Vous savez, on va regarder de très près les chiffres des départements. Non, mais c'est un sketch, quoi. Vaut mieux en rire. Mais ça commence à être long comme sketch, quoi.
Non, mais bon, donc alors bon, Jérôme Dubus, vous avez des infos ?
Non, mais écoutez, moi, quand j'entends les arguments de certains, là, je tombe des nues. Enfin, on en vient à la position du drapeau français alors qu'il y a 400 morts tous les soirs.
Oui, ouais, bah justement, c'est pas sérieux, rassurant de voir le sérieux avec lequel c'est traité. Tout ça.
Attendez, laissez-le terminer. Mais
il a assez duré. Enfin,
mais Jérôme, sur le sujet a priori de l'Île-de-France qui va échapper au reconfinement, ce qui n'est pas le cas du Pas-de-Calais, comment comprendre ce deux poids deux mesures ?
C'est très facile à comprendre. Le taux d'incidence du Pas-de-Calais, il est deux fois supérieur à celui de l'Île-de-France. Mm-hmm. Voilà. Les indicateurs sont deux fois plus mauvais dans le Pas-de-Calais qu'en Île-de-France.
Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne reconfine pas quand même l'Île-de-France, puisque les épidémiologistes, tous ceux qui s'intéressent au Covid, disent que inexorablement, les cas vont exploser et que c'est reculé pour mieux sauter. Donc, est-ce qu'il y a toujours
parce
cette question
que
de la...
Parce qu'on est dans une course à la vaccination, tout le monde l'a très bien compris, et que en Île-de-France, il y a un certain nombre d'élus, et notamment Mme Hidalgo, et Valérie Pécresse, présidente de la région, avec un certain nombre d'autres élus qui considèrent qu'aujourd'hui, le confinement le week-end n'est pas la bonne solution.
Ah, c'est de la faute
On a tellement reproché au gouvernement de ne pas tenir compte des avis des élus qu'aujourd'hui, on tient compte des avis des élus, mais c'est encore mauvais. Il faudra savoir.
Moi, je ne crois pas que c'est à coup d'amende de 135 euros, de couvre-feu à 18h et de confinement le week-end qu'on lutte contre une épidémie. Ça fait un an maintenant. On a le recul pour savoir que c'est aéroporté, qu'effectivement, il y a des lieux où on l'attrape plus que d'autres. On ne sait toujours pas le taux d'incidence dans les classes, à la cantine, dans les transports. Ça, on fait comme si ça n'existait pas. Hein. Ce n'est pas là qu'on attrape le Covid, il n'y a aucun problème. Mais par contre, c'est à la maison peut-être. Rappelez-vous, en mars 2020, peu après, Olivier Véran qui disait non, mais le confinement, c'est ce qu'il y a de pire parce que c'est entre soi qu'on attrape le Covid finalement. Le masque qui était inutile. Enfin, il faut voir les mensonges, les couleuvres qu'on a avalées. Aujourd'hui, on continue avec cette stratégie du pauvre. Hein. Confiner, c'est quand on n'a vraiment plus rien, qu'on en a vraiment rien à faire. Au lieu d'investir dans des. Enfin, il y a des moyens. Le Covid n'aime pas beaucoup les lumières ultraviolets, les UV. Et ça, en Asie, les pays asiatiques ont équipé toute leur clim de ça. Est-ce qu'on a bougé le petit doigt pour s'équiper. Est-ce qu'on a bougé le petit doigt pour ouvrir des lits ?
Si on vous avait dit qu'on allait mettre des lampes UV, vous auriez ricané en disant...
Non, il faut regarder là où ça marche. Non, mais il faut voir qu'on ne fait rien. Non, mais on ne fait rien qui va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a toujours un temps de retard. Et les tests, je ne vais pas rentrer dans les tests.
Je voudrais que Régis s'exprime. Oui, allez-y.
Sur ce que vous avez dit, moi, je l'ai déjà dit dans cette émission, je suis très circonspect. J'écoute beaucoup et j'ai toujours l'impression que c'est le dernier qui parle qui a raison. C'est très intéressant. Raoul dit des trucs qui me convainquent. Son adversaire va en dire. Bon, on sait peu de choses. En revanche, ce que j'ai constaté, c'est que vous avez utilisé le terme, je crois, les courbes d'inéluctabilité. Elles se sont trompées à plusieurs reprises. C'est-à-dire que on fait des corrélations entre des mesures qui ont été prises, une baisse ou une remontée, etc. En général, ça n'est pas très convaincant, hein. Mais c'est pas facile parce qu'il faut avoir des outils pour éventuellement prévoir. Ce que je constate simplement, premièrement, pour rejoindre ce que dit Alexis, c'est notre carence, hein. Et il n'y a pas que dans des polémiques politiques, on le dit. Je veux dire, toutes les études internationales le démontrent. On a été mauvais et on l'est toujours. La deuxième, c'est que peut-être ceux qui l'ont mieux fait, ou aussi parce que la pandémie, hein, avec ses mystères, il ne faut pas oublier que dans l'histoire, il y a toujours eu des pandémies, elles ont commencé, elles se sont toutes arrêtées sans qu'on sache pourquoi. Donc, moi, j'ai un peu l'impression, alors c'est parce que j'ai envie d'être optimiste peut-être, hein, mais j'ai un peu l'impression qu'on est dans une détente et que ces histoires de reconfinement partiel, etc., qui ne servent pas à grand-chose et qui ont surtout des effets d'annonce et constituent à nouveau des mesures de répression mal perçues par une population qui est psychologiquement... Alors, j'utilise le terme exsangue, ce n'est pas le bon, hein, puisque... Mais toujours est-il que je pense que là, il faut qu'on reprenne son sang-froid. Et je répète que j'ai le sentiment, intuition, c'est peut-être faux, hein, j'ai peut-être changé d'avis, mais qu'on est en train d'arriver, il y a le fameux critère des eaux usées qui est plutôt intéressant dans plein d'endroits. Alors, c'est vrai que c'est hétérogène, mais voilà, j'ai le sentiment qu'il faudrait qu'on arrête, hein, de procéder par coup de communication et de procéder par un système qui n'est qu'un système de répression. Ça me semble quelque chose auquel il faudrait renoncer.
Oui, Georges Kuzmanovic.
Mais moi, je pense que ce gouvernement continue, en fait, de certaine manière, à organiser le chaos et l'incompréhension, et la plupart des citoyens, en tout cas ceux que je rencontre, on a un peu ras-le-bol et écoutent d'une seule oreille le gouvernement parce qu'ils se disent que bon, dans deux jours ou dans une semaine, on va changer de braquet. Le fait de laisser s'exprimer tout un tas de personnes qui disent des avis contraires les uns après les autres, et y compris au sein du gouvernement, fait que... on ne croit plus tellement à la parole publique et on n'a pas l'impression qu'il y a un pilote de l'avion. Mmh. Et c'est du micro-détail du drapeau mis à l'envers jusqu'au mensonge, au masque, à l'incapacité à organiser la distribution des vaccins. Voilà, ouais. On est dans une situation où il n'y a pas de pilote dans l'avion.
Jérôme, du bus.
Non, moi je partage un peu ce que disait
Régis.
Notre avocat chéri.
Régis de Castelnau.
C'est un très bon bouquin, d'ailleurs.
Ouais.
sur l'évolution de la pandémie. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Regardez ce qui s'est passé au Portugal. Le Portugal, on vous l'a vanté en disant « Oh là là, tout a réouvert, c'est formidable. À Noël, tout le monde était en terrasse. Il y a des tas de Français qui sont allés à Lisbonne. C'était formidable. » Et puis maintenant, ils sont le pire des pays dans l'évolution de la pandémie. Bon. Mmh. Donc, il y avait deux chemins. Soit le chemin... de l'humilité, du fait de réagir au cas par cas et du pragmatisme sans adopter la stratégie zéro Covid, parce que c'est très compliqué pour les populations. C'est le choix qu'on a fait et plusieurs pays occidentaux l'ont fait, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. C'est à peu près la même chose, à quelques nuances près. Et puis il y a le choix d'un certain nombre d'autres pays, c'est la stratégie zéro Covid. C'est la stratégie de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, qui sont des îles, je le rappelle, de Taïwan, qui est une île aussi, d'un certain nombre d'autres pays.
Régis, on ne vous entend plus, puis on est en retard. Jérôme, on est obligé de rendre l'antenne, sinon je vais me faire tirer les oreilles.
Et les peines automatiques
Non, mais je vous réinviterai, promis. On fera le même plateau.
Dès qu'il y a 2-3 cas,
voilà. Ah, on ne l'entend plus, Jérôme. Et on a un auditeur qui nous dit « Nous allons sans doute approcher les 100 000 morts, mais sur deux années.
Oui.
Pour quelle autre maladie cumule-t-on ainsi dans le temps ?»
Là, on accepte un plateau à 300 morts par jour en disant que ce n'est pas si mal.
C'est énorme.
Non, mais c'est ce que nous disent les autorités aujourd'hui.
Et on va approcher les 100 000 morts. Donc,
oui, et on approchera les 100 000 morts du Covid, mais 1700 morts par jour, toutes causes confondues.
Allez, on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.